Notre mère que tu baises, brailla Loupé. Ouh là là, petite sœur, commença-t-il, sans avoir rien compris de ce qu'elle disait, bien sûr. C'est notre mère, répéta Juan Diego au hippie pendant que la baignoire se remplissait. Eh ben, on est tous potes, non? Amigos, quoi. Loupé retourna dans la chambre. Esperanza, ayant laissé ouverte la porte du couloir et Loupé celle de la salle de bain, on entendait sœur Gloria monter avec les petits de la maternelle. La sœur nommait cette marche forcée le reconstituant des enfants. Ils montaient au pas de charge, en psalmodiant leurs réponses, et cela tous les jours, pas seulement pour la fête d'un saint quelconque. Elle déclarait que cette activité offrait l'avantage annexe d'avoir un effet bénéfique sur le frère Pépé et sur Edward Bancho, qui adorait voir et entendre les marmots répétés « maintenant et à jamais ». Mais sœur Gloria avait la fibre punitive. Elle voulait sans doute châtier Esperanza, la cueillir, comme le plus souvent, sortant du bain drapé dans deux serviettes. Peut-être imaginait-elle que la piété attendrissante du chant des petits transpercerait son cœur de pécheresse à la manière d'une épée incandescente. Peut-être entretenait-elle l'illusion que le « tu seras mon guide » des marmots aurait un effet purificateur sur les sales gosses de la prostituée, à qui l'on avait accordé des privilèges particuliers. Une chambre à eux, avec salle de bain s'il vous plaît. Il n'aurait pas fallu compter sur elle pour les gâter comme ça. Ce n'était pas la meilleure manière de faire tourner un orphelinat, non? Pas de traitement de faveur pour les petits charognards qui puent la fumée. Le matin où Loupé apprit que sa mère et le gentil gringo avaient été amants, elle n'était pas d'humeur à entendre sœur Gloria et les petits chanter leurs prières alternées. « Mère !» répétait avec zèle sœur Gloria. Elle marqua un temps devant la porte ouverte, où elle vit Loupé assise sur un des deux lits défaits. Les enfants s'interrompirent dans leur marche. Ils piétinèrent sur place au milieu du couloir en regardant la chambre. Loupé sanglotait, ce qui n'était pas précisément nouveau. « Maintenant et à jamais tu seras mon guide !» répétèrent les enfants pour ce qui dut lui paraître la centième voire la millième fois. Sainte Marie, Mère de Dieu, c'est une usurpatrice, leur cria-t-elle. Qu'elle me fasse un miracle, tiens, rien qu'un tout petit, s'il vous plaît, et je croirais, ne serait-ce qu'une minute, qu'elle sait faire autre chose que voler le Mexique à notre Guadeloupe. Et qu'est-ce qu'elle a de si fameux à son actif, la Vierge, hein? On ne sait même pas comment elle est tombée enceinte. Mais sœur Gloria et les petits chanteurs avaient l'habitude des sorties incompréhensibles de la vagabonde demeurée, ainsi la nommait la nonne, la vagabunda. « Madre !» lança de nouveau sœur Gloria, et une fois de plus, les enfants répétèrent la prière lancinante. Or voilà que, sous leurs yeux, Esperanza sortait de la salle de bain tel un spectre. Leurs voix s'étranglèrent au milieu d'une phrase. Leur incantation se tut. Esperanza était sobrement vêtue d'une serviette, cheveux en bataille, lavés de frais. Ce n'était plus la femme de service déchue qu'il connaissait, mais une personne beaucoup plus sûre d'elle. Console-toi, Loupé. Ce n'est pas la dernière fois qu'un garçon nu te brisera le cœur, dit Esperanza. Aussitôt, sœur Gloria s'interrompit à son tour. Oh que si, la première et la dernière, cria Loupé, ce que ni les enfants ni la nonne ne comprirent. Ne faites pas attention à elle, les enfants, leur lança Esperanza en traversant la chambre pieds nus. Elle a eu une vision du Christ et elle est tourneboulée. Elle a cru qu'il était dans la baignoire, avec sa couronne d'épines et ses plaies ouvertes sur la croix. « Normal d'être retourné quand on se réveille dans ces conditions, » jeta-t-elle à sœur Gloria tout ébaubie. « Bien le bonjour, ma sœur, » ajouta-t-elle en longeant le couloir d'un pas déhanché dans la mesure du moins où le déhanchement est permis à une femme entravée par une serviette minuscule, l'obligeant à faire de tout petits pas, ce qui ne l'empêchait pas d'aller vite. « Quel homme nu ?» demanda sœur Gloria à Loupé. La petite vagabonde s'était assise sur le lit avec une expression butée. Elle lui désigna la salle de bain où une voix chantait « Viens t'asseoir près de moi et écoute ma triste histoire. J'ai pris une balle dans la poitrine et je sais que je vais mourir. » Sœur Gloria hésita. Depuis que la prière avait cessé et qu'Esperanza s'était éclipsée dans le plus simple appareil ou presque, la nonne au visage en lame de couteau entendait des voix provenir de la salle de bain des gosses de la décharge. Elle crut peut-être tout d'abord que c'était Juan Diego qui parlait, ou chantait tout seul, mais bientôt, sur fond de robinets qui coulaient et de clapotis, elle comprit qu'elle entendait deux voix. celle du jeune moulin à parole du basurero, élève chéri de frère Pépé, et puis une autre, celle d'un adolescent nettement plus âgé ou d'un jeune adulte. Tout à coup, elle pensa que le garçon nu évoqué par Esperanza devait être un homme fait, et elle hésita à rentrer. Les petits-enfants, eux, avaient été endoctrinés. On les avait entraînés à marcher au pas et ils marchèrent. Ils entrèrent au pas de charge dans la chambre, puis dans la salle de bain. Que faire? Se demandait Sœur Gloria. S'il y avait vraiment un jeune homme ressemblant de près ou de loin au Christ en croix, un Jésus à l'agonie, au dire d'Espéranza, son devoir ne lui dictait-il pas de protéger les orphelins de la fausse vision qui avait mis Lupe dans un tel état d'agitation? Lupe, pour sa part, ne perdit pas de temps et se dirigea vers le couloir. « Madre !» lança la nonne en se ruant dans la salle de bain aux trousses des brambins. « Maintenant et à jamais, tu seras notre guide !» reprirent ceux-ci avant que les hurlements ne retentissent. La conversation entre Juan Diego et le gentil gringo était fort intéressante, mais étant donné ce qui suivit, l'entrée en force des petits, on peut comprendre qu'en vieillissant, Juan Diego ait eu du mal à se rappeler les détails dans l'ordre. « Je sais pas pourquoi ta mère s'obstine à m'appeler gamin. Je suis pas aussi jeune que j'en ai l'air, » avait commencé le gringo. Inutile de dire qu'aux yeux de Juan Diego, qui à 14 ans était en effet un gamin, le gringo n'avait pas l'air d'un gosse. Mais il se contenta d'acquiescer. « Mon père est mort aux Philippines pendant la guerre. Il y a beaucoup d'Américains qui y sont morts. Sauf que mon père, il est mort après tout le monde. Il a vraiment joué de malchance. Et ça, c'est de famille chez nous. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pensé qu'il fallait que je parte au Vietnam. Mais en plus, je voulais aller aux Philippines, voir où il est enterré et lui rendre hommage. Lui dire tout simplement combien je regrette de ne pas l'avoir connu, tu comprends? » Là encore, Juan Diego se contenta d'acquiescer et pour cause. Malgré les robinets qui coulaient, le niveau d'eau ne montait pas dans la baignoire. Elle se remplissait et se vidait en même temps. Le hippie avait dû faire sauter la bonde à force de se tortiller sur son cul tatoué. En outre, il n'arrêtait pas de se shampouiner et la mousse qui glissait de ses cheveux enrobait désormais son corps visqueux au point que le Christ en croix avait disparu. La bataille de Corregidor en mai 42 a marqué le cœur des combattants aux Philippines. Les Américains se sont fait laminer. Dans la marche de la mort de Bataan, en avril de la même année, ils ont dû se faire une centaine de kilomètres après la capitulation et des tas de prisonniers sont morts en route. C'est pourquoi on a fait un cimetière et mémorial aussi grand aux Philippines. Il se trouve à Manille. « Je vois, » dit simplement Juan Diego. « J'ai cru pouvoir les convaincre que j'étais pacifiste, » poursuivit le brave gringo. Il était à présent entièrement recouvert de mousse, à l'exception du petit bouc brun qu'il portait au menton, au seul endroit où poussait sa barbe. Quoiqu'il parût trop jeune pour se raser, il fuyait la conscription depuis 3 ans. Car on avait voulu le recruter dès la fin de ses études universitaires, apprit-il à Juan Diego. Et il avait aujourd'hui 26 ans. Il s'était fait tatouer ce Christ aux plaies ouvertes pour persuader l'armée américaine qu'il était objecteur de conscience. Mais ça n'avait pas marché. Pour manifester ensuite son hostilité au patriotisme, il s'était fait tatouer ce drapeau américain déchiré en deux par l'arrêt des fesses, et puis il s'était enfui au Mexique. Voilà à quoi ça mène de se déclarer objecteur de conscience, 3 ans à la rue. Commenta le gringo. Mais écoute un peu ce qui est arrivé à mon pauvre père. Il était plus jeune que moi quand ils l'ont expédié aux Philippines. La guerre était presque finie, mais il combattait dans les troupes amphibies qui ont repris Corregidor en février 45. On peut mourir en gagnant une guerre, tu vois. C'est pas plus difficile que de mourir en la perdant. Mais c'est quand même la poisse, hein?
C'est de la poisse, convint Juan Diego.
Tu peux le dire, oui. Moi, je suis né en 44. Quelques mois avant que mon père se fasse tuer. Il m'a jamais vu. Ma mère est même pas sûre qu'il ait vu mes photos de bébé.
Quel dommage, dit Juan Diego. Il était à genoux sur le sol devant la baignoire. Impressionnable comme tout garçon de son âge, il pensait n'avoir jamais rencontré personne d'aussi passionnant.
Promets-moi un truc, le maroulette, dit le gringo en posant ses doigts savonneux sur la main de Juan Diego.
D'accord, répondit celui-ci. Avec les promesses faites à Lupe, il n'en était plus à sa près.
S'il m'arrive quelque chose, il faut que tu ailles aux Philippines à ma place. Il faut que tu dises à mon père combien je regrette de ne pas l'avoir connu.
Oui, bien sûr, j'irai. Pour la première fois, Le jeune hippie parut surpris.
Tu iras?